C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement. Sur RFI. Bonjour, arrêtez-vous un instant et regardez vos pieds. Ils reposent sur du carrelage, de la moquette, du bitume, du bois, mais dessous. Qu'y a-t-il juste en dessous ? Eh bien, il y a le sol, cette si fragile surface de la Terre qui abrite une incroyable richesse biologique. Mais c'est difficile de se faire respecter quand on vous marche dessus. Pourtant, nous lui devons tout. Notre alimentation, la qualité de l'air que l'on respire, de l'eau que l'on boit, et nous le maltraitons. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un cours de sol en bonne compagnie.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Claire Chenu.
Bonjour Anne-Cécile.
Donc vous êtes enseignante en sciences du sol à AgroParisTech. Vous avez joué un rôle important en 2015 lorsqu'il y avait l'année internationale des sols. Vous étiez ambassadrice auprès de la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, parce que pour vous, les sols, c'est l'épiderme de la Terre. C'est une surface extrêmement fragile qu'il faut défendre.
C'est effectivement pour moi l'épiderme de la Terre, une toute petite couche à la surface de notre planète qui est absolument essentielle à nos sociétés. D'abord, c'est le support des plantes, hein. C'est grâce au sol que les plantes poussent, c'est là qu'elles s'enracinent, qu'elles trouvent de l'eau, donc c'est le support de notre alimentation, hein. 95% de l'alimentation de l'humanité provient directement ou indirectement des sols. C'est à la surface des sols qu'arrive l'eau de pluie, c'est là qu'elle s'infiltre ou qu'elle ruisselle à la surface du sol. C'est à la surface du sol que nous rejetons beaucoup de nos déchets. Le sol est un filtre pour tout cela. C'est un réservoir de biodiversité absolument formidable. C'est là que nous faisons pousser, c'est dessus que nous faisons pousser nos maisons. C'est aussi un livre d'histoire, hein. Nos restes, les restes de nos activités sont dedans. Les sols sont absolument essentiels à notre activité.
Alors aujourd'hui, avec vous et vos collègues qui vont nous accompagner, nous allons prendre un cours de sol. Et alors pour cela, nous sommes venus ici à Versailles, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Paris. Et là, nous sommes, c'est un peu surprenant, au milieu des champs. Alors expliquez-nous où nous sommes.
Alors nous sommes sur un essai expérimental INRA, où nous travaillons, donc... collègues qui sont là, c'est un essai où sont comparés depuis 20 ans différents systèmes de culture.
L'INRA, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique.
Et depuis 20 ans, nous comparons différents systèmes de culture, on va dire, pour faire simple, en culture de céréales, rotation avec des céréales, un système qu'on peut qualifier de productif, objectif de rendement important, respect des réglementations environnementales, mais utilisation donc de fertilisants, de produits phytosanitaires. Un système de culture où on essaie de réduire les doses de fertilisants minéraux et de pesticides, donc bas intrants. Un système de culture qui correspond au cahier des charges de l'agriculture biologique, donc pas d'intrants de synthèse. Et un système en agriculture de conservation, c'est-à-dire qu'on ne laboure jamais le sol n'est jamais travaillé, on sème directement le sol et il y a en permanence une plante de couverture qui est ici une luzerne. Voilà donc quatre systèmes de culture qui sont mis en place depuis 20 ans et pour nous c'est un terrain assez formidable pour étudier l'effet des pratiques agricoles sur les sols, sur les propriétés des sols.
Et là nous sommes clairement physiquement au carrefour de ces quatre cultures.
Tout à fait, là vous avez du blé en productif, là il y a du blé en agriculture biologique, de l'avoine en agriculture de conservation et de la févrole en système à bas intrants.
La févrole c'est quoi ?
La févrole c'est une légumineuse qui sert essentiellement d'alimentation du bétail.
Alors vous nous disiez... Le sol, donc, c'est une surface qui est extrêmement fine. Quelle est la surface productive en fait en termes de centimètres ?
Alors ici, par exemple, nous sommes sur des sols qui sont extrêmement fertiles. Et une des raisons de leur fertilité, c'est qu'ils sont très profonds. Ici, la surface productive, elle fait 1,50 m, 2 m. L'épaisseur productive, c'est l'épaisseur dans laquelle les plantes peuvent s'enraciner jusqu'à plus d'1,50 m de profondeur. Dans certaines régions du monde... Même certaines régions de France, les sols sont beaucoup moins épais. On a 20-30 cm d'épaisseur de sol et les racines ne peuvent explorer que cette profondeur-là.
Et cela, c'est dû à quoi ?
Alors, c'est dû à l'âge du sol, un sol jeune et moins épais. Et puis, c'est dû aux matériaux sur lesquels se développe le sol. Ici, le sol se développe sur des dépôts éoliens qui datent des dernières glaciations, qui sont très meubles. Donc le sol peut être profond, mais quand vous avez quand les sols se développent sur de la roche dure, sur du granit, sur du basalte, ils sont moins épais. Typiquement en montagne, les sols sont beaucoup moins épais.
En fait, le sol, on marche dessus et on ne sait absolument pas comment il est fait en dessous, c'est-à-dire le fait qu'il ait une épaisseur variée. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ceux sur lesquels vous marchez ?
Moi, personnellement ? Parce que j'étais géologue de formation, mais attirée à la fois par la géologie et la biologie. Je voulais des deux à la fois. Et puis, quelqu'un, un professeur, m'a bien renseigné. Il m'a dit, tu devrais aller voir du côté des sols. Il y a de la géologie et de la biologie. Et effectivement, il y a les deux et je trouve ça absolument passionnant. Le sol est au carrefour du monde minéral, du fonctionnement du monde minéral et du monde vivant. Voilà, les organismes vivants contribuent à la formation des sols, déterminent ses propriétés, et les organismes vivants sont essentiels au fonctionnement du sol et aux services que nous attendons des sols.
Alors, pour essayer justement de voir l'aspect vivant de ces sols, vous êtes venu avec deux collègues et on va aller piocher avec elles si on peut, parce qu'il a fait très très chaud récemment à Paris et dans ses alentours, donc le sol est dur. Je vous laisse nous présenter vos collègues.
Oui, Laure Vieux-Blégonneau et mes collègues enseignants-chercheurs à AgroParisTech. C'est une spécialiste de la biodiversité des sols et particulièrement de la biodiversité des micro-organismes du sol. Elle est microbiologiste du sol.
Bonjour Laure.
Bonjour Anne-Cécile.
Donc vous êtes venue avec nous sur cette parcelle parce que vous êtes capable de décortiquer finalement quelles sont toutes les petites bêtes, les micro-organismes, les bactéries, enfin vous me dites si je dis des bêtises, mais qui sont dans les sols.
Non, c'est ça, c'est ce que j'essaye de regarder. On a différents types d'organismes, hein, une biodiversité très importante avec des organismes de différentes tailles, des micro-organismes donc qui sont invisibles à l'œil nu, avec essentiellement des bactéries et des champignons par exemple. Des organismes un petit peu plus gros qui ressemblent à des vers, par exemple avec des nématodes.
Des vers de terre.
Alors beaucoup plus petits, c'est des vers microscopiques. Ensuite on a de la mésofaune avec par exemple des collemboles qui sont des petits des micro-arthropodes qui peuvent sauter par exemple, ou des acariens. Et puis encore un peu plus gros, des vers de terre.
Et donc là si on creuse dans le sol, on peut les trouver ?
Alors pour les plus gros, on peut les observer. Pour les plus petits, comme les micro-organismes, ils sont invisibles à l'œil nu. Et donc, il faut aller les regarder soit au microscope, soit les étudier de manière différente.
Et alors, en fonction, puisque c'est ce qui est étudié ici, en fonction des méthodes agricoles, il y a une biodiversité plus ou moins riche dans les sols ?
Oui, alors on peut trouver une biodiversité qui varie en fonction du type de sol et en fonction également du mode d'occupation des sols. Par exemple, si on compare des sols agricoles avec des sols de prairies ou des sols forestiers, avec par exemple des sols forestiers qui seront beaucoup plus riches en micro-organismes que les sols de prairies ou les sols agricoles.
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont beaucoup plus riches en matière organique de manière générale.
Parce qu'ils récupèrent les feuilles des arbres.
Notamment, et puis également les racines qui vont mourir, tout ce qui est exudat racinaire, donc qui provient des racines. Donc différents types de matière organique, sachant que la plupart des organismes du sol ont besoin de carbone, de matière organique, pour se développer, se multiplier.
Alors est-ce qu'on peut aller creuser ce sol ?
Bah oui, on va demander à Juliette.
Bonjour Juliette.
Bonjour.
Vous êtes étudiante, donc c'est à vous que les deux professeurs délèguent la tâche de creuser ce sol. Alors on commence par où, Claire ?
On essaie le conventionnel, le productif ? Hein ? On va essayer de creuser. Alors ce ne seront pas les conditions optimales pour observer le sol, parce que là c'est bien sec. Et puis les organismes, par exemple les vers de terre, quand il fait trop sec, ils s'enfouissent. Ils vont plus en profondeur. Donc on va voir, on va essayer, on va s'y mettre.
Essayons. Alors on rentre dans le champ de blé par un passage
de roue. Le blé est déjà bien haut, hein, il fait un mètre de hauteur et effectivement on voit que la surface du sol, donc nous sommes dans la parcelle productive, on voit que la surface du sol est bien sèche. On va essayer.
Donc productive, on va rappeler ce que ça veut dire.
Alors c'est qu'on vise le rendement maximal possible pour ce type de sol et ce type de climat en apportant des doses d'engrais nécessaires à la croissance attendue des plantes, on n'en apporte pas en excès, et puis en apportant les produits phytosanitaires, donc des pesticides, lorsqu'il y a des maladies déclarées ou lorsqu'on anticipe le développement de maladies.
C'est l'agriculture qui a été prônée dans les pays occidentaux depuis la Seconde Guerre mondiale, en gros.
Tout à fait, c'est ça. En ajoutant quand même qu'ici, c'est une version de cette agriculture où on respecte les réglementations environnementales. Donc on n'apporte pas, on ne traite pas, par exemple, avec des pesticides à tout va au cas où. Hein, on traite s'il y a un problème avéré.
Et c'est cette agriculture qui est aujourd'hui remise en cause ?
Qui est remise en cause pour de multiples raisons, dont des raisons d'impact sur l'environnement.
Non, la bêche ne rentre pas dans le sol. C'est trop dur.
Ouais, c'est beaucoup trop dur là. Ça va être difficile. On a l'impression que c'est du caillou alors que c'est du sol, mais...
C'est ça, hein, quand on est étudiante et qu'on travaille sur les sols,
c'est pas la bonne
faut savoir piocher.
Ah là, c'est mieux. Là, j'y arrive. Là, c'est bon, la bêche est descendue. Il y avoir un caillou. Donc, on va essayer d'aller jusqu'à 25 cm de profondeur à peu près. Pour avoir une bonne idée de la structure du sol, pas seulement en surface, mais un peu plus profond. Parce que ça peut changer. La couche la plus superficielle, elle peut être très sèche et très fine. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir les mottes en profondeur pour avoir une idée de ce qu'on peut trouver dedans et de la porosité, de l'eau qui peut être contenue.
Elle est carrément, elle a grimpé sur la bêche, Juliette. De tout son poids, elle pèse.
25 cm, c'est l'épaisseur de labour en fait. Ah oui, quand on labour à 20-25 cm, donc quand on fait un test de sol, on fait cette profondeur, d'accord. Alors on entend des avions parce qu'il y a un petit aéroport pas très loin. La difficulté, on va le voir quand on va sortir cet échantillon, si Juliette y arrive, c'est que les sols de ces agricultures conventionnelles sont souvent, fatigués ?
Dégradés, souvent dégradés parce que sensibles à l'érosion. Enfin, ces sols sont de manière générale appauvris en matière organique par rapport à ce qu'ils pourraient être ou par rapport à ce qu'ils sont sous prairie permanente. Et étant appauvris en matière organique, ils perdent certaines qualités physiques, ils deviennent plus sensibles à l'érosion, ils hébergent moins de biodiversité. Et dans certains cas, si on ne restitue pas au sol sous forme minérale ou sous forme organique les éléments minéraux qu'ont exporté les cultures que l'on récolte, on a des sols qui s'appauvrissent. Littéralement, on peut parfois, alors ça n'est pas le cas ici, mais parfois on fait une agriculture minière, c'est-à-dire que les plantes exportent des éléments minéraux. Si on ne les remplace pas dans le sol, le sol s'appauvrit progressivement.
Et c'est comme ça qu'après il devient infertile, mais pas mort.
Pas mort. Les sols morts, j'ai envie de dire, ça n'existe pratiquement pas. Ça existera sous un site, vraiment l'épicentre d'un site très contaminé et encore. Il y a toujours de la vie dans les sols. Par contre, il y a une gamme, alors ma collègue Laure connaît ça bien mieux que moi, mais il y a une gamme d'abondance et de diversité des organismes vivants du sol qui est très grande et qui dépend de l'usage. Est-ce qu'il est cultivé ? Est-ce qu'il est sous prairie ? Est-ce qu'il est sous forêt ? Sous usage naturel ? Est-ce que c'est une zone artificialisée, un site d'usine ? Et qui dépend des pratiques.
Donc en fonction des pratiques, Laure, il y a plus ou moins de biodiversité dans le sol ?
Tout à fait. On trouvera par exemple beaucoup plus de biodiversité dans les sols sous agriculture de conservation ou en agriculture biologique.
L'agriculture de conservation, c'est quoi ?
Alors l'agriculture de conservation, ce sont des sols qui ne sont pas travaillés et sur lesquels on peut avoir une couverture végétale pour protéger les sols.
Et là, c'est finalement le meilleur moyen de protéger un sol ?
Alors, il n'y a pas un meilleur moyen, il y a des meilleurs moyens, puisque la combinaison de pratiques peut favoriser la biodiversité. Mais par exemple, dans les sols en agriculture de conservation, on n'a pas de travail du sol. ou un travail très superficiel et donc qui évite les blessures directes sur des organismes comme les vers de terre par exemple, ou qui évite de détruire les habitats et donc on va favoriser ces macro-organismes par exemple.
Alors Juliette, ça creuse ?
Ouais, ça creuse, on y est presque. je pense qu'on a déjà deux côtés de fait. On va essayer d'extraire un bloc, donc normalement c'est 4 coups de bêche, sauf quand c'est sec, ou c'est un peu plus long. Je pense que je vais essayer de l'extraire quand même sur le côté.
Là, ce que Juliette s'apprêtait à faire, c'est ce que nous appelons un test bêche, qui est un test normalement relativement rapide d'appréciation de la structure du sol et de plusieurs de ses propriétés.
C'est un test visuel.
Qu'est-ce qu'on regarde ?
On commence par regarder la surface du sol. Si on voit la présence de turricules de vers de terre, donc c'est ce que rejettent les vers de terre qui nous indiquent qu'ils sont là, on va regarder si le sol est plus ou moins couvert. Et ensuite, on va extraire un bloc de sol. Et on va regarder un petit peu les gros morceaux qu'il y a dans ce bloc de sol, voir quelle forme ils ont, s'ils sont plutôt anguleux, plutôt ronds, ce qui va nous donner une indication un peu sur la qualité de la structure. On va aussi regarder si on a un bloc uniforme ou s'il se casse tout de suite, donc s'il est plus ou moins cohérent, ce qui nous donne aussi une information de qualité. Et du coup, au final, on a une idée, on obtient un indicateur qui nous donne une idée de la compaction du sol et donc de sa qualité.
De la porosité également, pour voir justement tout ce qui est enracinement racinaire ou aération, transfert d'eau dans les sols, qui peuvent être indispensables pour les cultures et pour les micro-organismes, et pour les organismes du sol.
Alors là, vous mettez une bâche au sol pour mettre...
La pelletée de sol, la bêchée de sol dessus pour pouvoir bien l'observer. Alors, Laure l'a dit, c'est un test qui est visuel et pourtant il y a un protocole. C'est-à-dire que nous avons un mode opératoire comme une recette de cuisine qui indique comment faire.
Alors là, qu'est-ce que vous observez du coup sur cette pelletée ?
Bon, une fois qu'on a vu le bloc de sol, normalement on regarde s'il peut tenir directement sur la bêche, s'il colle un peu. Bon là c'est pas du tout le cas parce que le sol est particulièrement sec. Ensuite on le pose sur la bâche et maintenant on va regarder s'il y a des fissures, puis casser le bloc pour voir comment il se casse, si on a des gros morceaux et s'ils sont ronds ou pas. Donc on va casser le bloc. Bon alors déjà, bien sûr qu'il y a des fissures sur notre bloc parce qu'il est déjà complètement cassé à cause de la sécheresse. On voit plein de petites galeries de vers de terre, des petits trous, un petit peu partout, avec des racines entre.
Super, disent Claire et Laure.
Voilà, donc c'est une bonne indication de la vie qu'il y a dans le sol. Donc ensuite, on va essayer de casser un peu les blocs. Alors là, c'est super dur.
Le sol est beige.
Peut-être qu'on emportera un morceau pour comparer avec d'autres parcelles.
Parce qu'il y a différentes couleurs du sol.
La couleur du sol change selon les régions du monde et le type de sol. Hein, ici, sous climat tempéré, nous avons très souvent des sols beiges ou marrons. En Afrique, sur les latérites, on a des sols qui sont rouges, par exemple. Donc ici, on est plutôt dans le domaine du beige. Mais on peut aller du beige au marron, voire marron foncé, selon la teneur en matière organique.
Et donc là, beige clair, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de teneur en valeur organique ?
Non. Non, et pour donner une valeur, il y a à peu près 1% de carbone organique dans ce sol. Alors le carbone, c'est le principal constituant des matières organiques. Et donc les matières organiques, c'est, pour faire simple, tout ce qui est ou a été vivant. C'est ce qui vient de la décomposition de toute la biomasse, les résidus végétaux qui arrivent au sol et qui sont dégradés en permanence par la grande diversité d'organismes qu'il y a dans le sol, comme l'a décrit Laure.
Et c'est pour ça que les sols peuvent jouer un rôle important pour lutter contre les changements climatiques. On en parlera tout à l'heure. Alors, donc Juliette, vous nous avez étalé ce sol.
Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étalé notre sol sur notre bâche. Alors, on peut voir qu'on a plusieurs choses différentes. Déjà, on a de la terre fine, donc vraiment des tout petits morceaux. Donc ça, ça n'a pas du tout collé. Donc il n'y a pas de structure là-dedans. On n'a pas une belle structure, on ne peut pas voir les galeries de vers de terre. Mais à côté, on a des mottes de terre, donc des petits blocs, qui vont nous donner une indication sur la structure du sol. Alors on observe la forme des mottes en général pour caractériser les sols. Et là, on voit qu'on a des mottes avec des angles. Elles forment un petit peu des angles comme si c'était des carrés ou des triangles. C'est pas rond, c'est pas uniforme. Et donc, les angles comme ça, en général, c'est indicateur de la compaction du sol. Donc là, toutes ces mottes-là avec des angles, elles nous montrent que notre sol est assez compacté, ce qui est assez classique pour des sols en agriculture conventionnelle. En agriculture biologique, en général, on s'attend à avoir des mottes un petit peu plus rondes, comme celle-là, on ne voit pas d'angle en particulier.
Ici, on est sur des sols qui ont été cultivés depuis des siècles. Donc on a une très longue histoire d'agriculture. Et comme ces sols sont très fertiles, voilà, ils ont été mis en culture et cultivés très tôt.
Donc pour simplifier, une terre claire avec des mottes qui s'éclatent comme ça avec des angles, ce n'est pas un sol de grande qualité.
Alors en fait c'est un sol de grande qualité, je vais vous surprendre, parce que c'est un sol qui est profond et sa constitution, donc un sol s'est fait principalement de particules minérales et sur ces sols qu'on appelle des sols de limon, donc il y a beaucoup de particules petites mais plus grosses quand même que des argiles et ce sont des sols qui ont une très grande capacité à retenir l'eau. Donc de ce fait, ils ont une grande fertilité, mais leur état structural n'est pas optimum par rapport à ce qu'ils peuvent être.
Laure, vous qui êtes spécialiste des organismes vivants dans les sols, là, on ne voit pas grand-chose. Alors bon, c'est peut-être parce que c'est à l'œil nu, mais
il n'y a là, pas... on ne voit pas grand-chose, effectivement. Donc les micro-organismes, c'est normal. Après, on ne voit pas beaucoup de vers de terre. Ceci dit, on a vu des galeries. Là, on ne voit pas les vers de terre parce que, notamment, il fait très sec et donc ils vont avoir tendance à aller se protéger plus profondément pour rechercher un peu plus d'humidité.
Il y a de la vie sous terre, on l'a peut-être bien oublié. Et si l'on sait se taire, on pourrait peut-être l'écouter. Y a de la vie sous terre, et si l'on ne sait pas quoi faire, on pourrait s'arrêter, prendre le temps de l'observer. Vois-tu ce ver de terre se faufiler le ventre à terre? Il vient nourrir la terre en la trouant comme du gruyère. Et toutes ces fourmis qui travaillent de jour comme de nuit, elles bossent comme des chameaux sans prendre un seul jour de repos. Y a de la vie sous terre, on l'a peut-être bien oublié. Et si l'on sait se taire, on pourrait peut-être l'écouter. Y a de la vie sous terre, et si l'on ne sait pas quoi faire, on pourrait s'arrêter, prendre le temps de l'observer.
Sur RFI et vous avez bien raison, nous parlons du sol aujourd'hui, cet épiderme de la terre sur lequel nous marchons et auquel nous prêtons si peu d'attention. Pourtant, ses fonctions sont essentielles et nous en parlons avec trois scientifiques, Claire Chenu, enseignante en sciences du sol à AgroParisTech, Laure Vieux-Blé-Gonneau, maître de conférence à AgroParisTech et microbiologiste des sols, et Juliette Chassin, stagiaire à l'INRA, étudiante à AgroParisTech, qui travaille sur les différentes pratiques agricoles en lien avec la biodiversité des sols. Et ensuite, on va voir quoi? Un sol
en agriculture de conservation.
Donc ce sont un peu les deux extrêmes, en fait, en termes de... Voilà, rapport au sol.
Ouais. Oui.
Je vois qu'il y a des coquelicots, il n'y en avait pas tout à l'heure dans le champ de blé.
Non, il n'y en avait pas parce qu'en fait ici, dans ce système de culture en agriculture de conservation, on est également en réduction des intrants. Donc il y a moins d'apport de fertilisants minéraux, d'azote minéral, et puis moins de pesticides apportés, moins d'herbicides et donc plus de coquelicots. Alors en fait, on apporte quand même des herbicides dans ce système parce que le labour et de manière générale le travail du sol est une des manières que l'agriculteur a à sa disposition pour réguler la croissance, contrôler la croissance des mauvaises herbes. Lorsqu'on n'a pas de travail du sol, lorsqu'on n'a pas de labour, on fait souvent appel à des désherbants chimiques. Voilà, et c'est le cas sur cette parcelle.
Mais certains ne font pas appel à des herbicides malgré tout, ça veut dire plus de travail manuel ?
Il y a un compromis à trouver, c'est-à-dire quand on ne veut pas utiliser des herbicides, la manière de contrôler les mauvaises herbes, c'est de travailler le sol, c'est de labourer, de l'émietter régulièrement. Certains agriculteurs arrivent à diminuer fortement, voire à ne pas utiliser d'herbicides, tout en diminuant le travail du sol, en étant non-labour. Mais c'est, j'ai envie de dire que c'est un peu de la haute voltige qui nécessite un savoir-faire assez extraordinaire.
Alors, on vous suit dans ce champ d'avoine.
Voilà, mais regardez Anne-Cécile, la surface du sol n'est pas nue. Il y a toute une litière. Regardez une litière qui fait oula, un bon centimètre d'épaisseur. En fait, comme le sol n'est pas labouré, les résidus de culture de l'année d'avant restent à la surface du sol et ça fait une litière. Une litière qui apporte de multiples bénéfices et entre autres de protéger en hiver la surface du sol de l'action de la pluie et donc de protéger le sol de l'érosion. Alors, un autre avantage d'avoir une litière dans les pays de climat sec, c'est que la litière limite l'évaporation de l'eau du sol. Donc on garde l'humidité plus longtemps dans le sol.
Donc par exemple, on peut imaginer que dans des zones comme en Afrique, protéger le sol avec de la matière organique comme on le voit là, c'est-à-dire avec les résidus de culture, ça peut être une bonne solution.
C'est une bonne solution du point de vue de la gestion de l'eau. C'est une bonne solution aussi, la litière peut empêcher les mauvaises herbes de pousser. Et puis ça nourrit une grande diversité d'organismes. Simplement, ça veut dire qu'il faut avoir des résidus de culture à restituer. Or, dans un certain nombre de régions du monde, c'est aussi l'aliment du bétail. Voilà, donc, il y a des compromis à trouver. Et il y a des régions du monde où on ne peut pas se permettre de restituer les résidus de culture au sol.
Alors Juliette, comment il est ce sol? Aussi dur que tout à l'heure?
Ah ben non, écoutez, de façon surprenante, je le trouve moins dur. Et je pense que c'est dû au fait qu'il y a une couverture sur la surface qui a maintenu un petit peu l'humidité dans le sol. Donc le sol a l'air d'avoir moins souffert de la sécheresse et donc il est un petit peu plus facile à creuser.
Laure, un sol qui a un couvert végétal comme celui-ci toute l'année va avoir une richesse biologique plus importante?
Alors en tout cas, on va avoir une biodiversité importante, notamment dans les premiers centimètres où on a une accumulation de matière organique. Alors certains résultats ont montré qu'on n'avait pas forcément plus de micro-organismes par exemple, mais la distribution dans le sol est différente. C'est-à-dire que là, on aurait une concentration beaucoup plus importante dans les premiers centimètres. Après, d'autres études ont montré qu'on avait beaucoup plus de biodiversité en agriculture de conservation. Et notamment les champignons, par exemple, où on va avoir, dans les sols sous agriculture de conservation, en général, on observe beaucoup plus de champignons du fait de la présence de litière. Donc un rôle important des champignons dans la dégradation de cette matière organique.
C'est important d'avoir des champignons dans le sol?
Alors les champignons dans le sol jouent un rôle majeur hein, dans la dégradation de la matière organique, mais aussi dans la nourriture des plantes, puisqu'on a des champignons qu'on appelle des mycorhizes par exemple, qui vont favoriser l'assimilation d'eau, l'assimilation de nutriments comme le phosphore pour les plantes. Les plantes étant dans la majorité des cas mycorhizées, donc ont besoin de ces champignons pour se nourrir.
Claire Chenu, c'est vraiment un monde en soi le sol finalement.
Absolument. Nous marchons sur un écosystème, sur un monde avec ses organismes, ses habitats très, très diversifiés. Très diversifiés bien sûr selon les régions du monde et puis dans le paysage. Et puis très diversifiés selon la manière dont est géré le sol et parfois même à l'échelle de quelques millimètres un système de crevasses, de pores dans lesquels circulent les organismes, au contraire auxquels ils n'ont pas accès parce qu'ils sont trop gros pour entrer dans un port où peut-être il y a une réserve de matière organique à consommer, donc une réserve de nourriture. Pour l'étudier, on a beaucoup besoin de travailler à l'échelle microscopique.
Globalement, les sols sont assez dégradés à l'échelle de la planète?
Tout à fait. À peu près un tiers des sols de la planète sont moyennement à sévèrement dégradés. Donc c'est un problème quand même gravissime. Dégradé parce que l'érosion, c'est la principale cause de dégradation à l'échelle de la planète.
Donc l'érosion, c'est quoi le mécanisme?
Alors l'érosion, c'est surtout l'érosion due à l'eau. C'est lorsque les caractéristiques du sol font que les particules sont facilement entraînées par l'eau qui arrive à sa surface.
Alors, par exemple un sol très très sec où l'eau ne pénètre pas?
Alors c'est un sol très sec où l'eau ne pénètre pas. C'est un sol où les particules collent peu entre elles. Et la matière organique est un des constituants du sol qui permettent de bien agréger, nous disons agréger, on dit former des agrégats, agréger les particules de sol et permettre de résister à l'érosion. Et puis, ben justement, regardez ici, nous avons une litière importante qui couvre le sol. Dites-vous, en hiver, donc il n'y a pas l'avoine, en hiver, la pluie ne touchent pas les particules du sol, elles touchent la litière qui protège contre l'érosion. Donc les sols sont trop nus à l'échelle de la planète, trop souvent nus, en particulier les sols agricoles. Donc érosion, contamination, appauvrissement en matière organique, appauvrissement en biodiversité, tassement, salinisation, très important en beaucoup de régions du monde.
Et puis, pourquoi il y a de la salinisation ?
Alors il y a de la salinisation lorsque la quantité d'eau qui s'évapore est plus importante que la quantité d'eau qui arrive au sol. Et du coup, les sels contenus, même dans l'eau de pluie, il y a des traces infimes, se concentrent dans le sol. Alors, c'est un phénomène qui est naturel, mais c'est un phénomène qui est aggravé lorsqu'on irrigue le sol. Et bien sûr, sous climat sec, sous climat aride et semi-aride, on irrigue en agriculture. Donc, on aggrave la salinisation naturelle. Et ça peut rendre les terres vraiment incultivables, parce que les teneurs en sel deviennent très élevées.
Et puis, il y a l'artificialisation des sols aussi.
Alors, il y a également l'artificialisation des sols. Alors, l'artificialisation des sols, donc, c'est passer d'un usage agricole, forestier, espace naturel, à un usage de zones artificialisées, imperméabilisées et construites, ou passage de route. Et puis, toutes les zones qu'il y a autour, vous voyez, par exemple, autour d'une autoroute, vous avez toujours une zone, une espèce de banquette, un talus, mais qui a été complètement remaniée. Donc, tout ça, à la fois l'autoroute lui-même et la zone d'herbe autour, c'est de la zone artificialisée. Alors, l'artificialisation, c'est la principale cause de dégradation des sols en France, par exemple. Elle progresse vraiment très rapidement et elle se fait surtout aux dépens des terres agricoles. C'est vraiment un problème auquel il faut s'attaquer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que ça veut dire trouver des moyens pour des manières de limiter l'expansion des villes, de limiter l'urbanisation, favoriser un habitat plus dense, mais permettre en même temps un habitat avec suffisamment de nature pour qu'il soit attractif.
Alors Juliette, formidable.
Oui, c'est super.
Ah, c'est super. Alors, qu'est-ce qui se passe de super, Laure, dans cet échantillon ?
Alors, ce qu'on voit dans cet échantillon de sol, c'est des turricules de vers de terre. Donc, de la terre qui a été ingérée par les vers de terre, donc avec un mélange de matière minérale et de matière organique, et qui est ensuite rejetée par ces vers de terre. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle des turricules, et ça contribue notamment à la structuration du sol. Alors, il est notamment beaucoup plus riche en matière organique. Et donc, qui dit plus riche en matière organique, dit plus riche en organismes du sol.
Il y a une différence de couleur aussi très nette.
Également, effectivement, c'est qu'il est plus riche en matière organique et donc il est un petit peu plus foncé.
Et puis, vous pouvez voir aussi qu'il est plus poreux. Il y a beaucoup plus de pores, de vides, de trous dans le sol qu'il n'y en a dans ce petit échantillon, cette petite motte que j'ai mise à côté, qui vient de la parcelle en système de culture productif.
Et plus il y a de trous dans un sol, mieux c'est pour que l'eau puisse y pénétrer, c'est ça ?
Tout à fait, ça permet à l'eau de pénétrer. Ça, ce sont les grands trous, les grands pores. Et puis, dans les petits trous, les petits pores, ça permet à l'eau d'être retenue. Et donc, c'est ce qui fait que le sol a une réserve d'eau utilisable par les plantes. Et puis, les organismes vivants, c'est là-dedans qu'ils circulent. Il faut se dire que leur habitat, c'est cette espèce de labyrinthe de petites galeries de tailles différentes, plus ou moins interconnectées, qu'il y a dans le sol.
Et ça permet aussi le développement racinaire.
Oui. Juliette, là, vous êtes en pleine observation aussi. Qu'est-ce que vous voyez ?
Alors là, j'ai extrait le bloc de sol. J'ai la partie qui correspond à la surface. Donc on voit bien au-dessus la litière et les petits résidus de paille qui commencent à être enterrés et décomposés. Donc ça apporte de la matière organique en surface, qui est très bien pour les organismes du sol, comme les acariens et les colamboles par exemple. Et on voit aussi, si on descend un peu plus en profondeur, on a des mottes un peu comme tout à l'heure avec des angles, ce qui est normal parce qu'on sait qu'en agriculture de conservation, le sol peut être plus compacté parce qu'il s'est tassé avec le temps vu qu'il n'est jamais travaillé. Mais on a aussi beaucoup de terre fine et un petit peu de mottes plus rondes. Donc on voit que c'est pas aussi, aussi clair qu'en agriculture conventionnelle. On a un petit peu plus d'homogénéité. Et j'ai vu plein de petits organismes passer en extrayant mon bloc qui sont déjà partis juste le temps qu'on fasse l'observation.
Ils sont retournés au sol, ils ont fui.
Tu as eu le temps de voir qu'il y avait des organismes ? Des cloportes ?
Ah oui, un cloporte.
Voilà, un cloporte.
Donc un cloporte, le seul crustacé terrestre.
C'est un crustacé, le cloporte ?
Tout à fait.
Et quel est son rôle dans le sol ? Qu'est-ce qu'il fait, le cloporte ?
Il mange les débris végétaux et puis du coup, il est impliqué dans tous les réseaux trophiques. Au même titre que tous les autres organismes du sol.
Les réseaux trophiques, c'est quoi ?
Donc c'est une régulation des organismes. On a des organismes qui vont consommer la matière organique, les débris végétaux, et puis on a d'autres organismes qui vont consommer ces détritivores, qui peuvent être des prédateurs, et etc., etc. Donc ça permet de réguler les populations d'organismes dans les sols.
Donc on voit bien qu'il y a quand même deux sols de qualité très différentes.
Vous voyez, deux sols de qualité très différentes qui sont, on a fait quoi? On n'avait même pas 10 mètres. Et ça, dû aux pratiques agricoles. Donc l'homme, par la manière dont il gère les sols, par les pratiques agricoles qu'il a, mais on pourrait parler aussi de pratiques forestières, on pourrait parler de pratiques d'entretien des jardins en ville, affecte la qualité des sols et peut maintenir la qualité des sols, peut la dégrader bien sûr, mais peut maintenir la qualité des sols, voire même l'améliorer.
C'est un enjeu très important parce que l'année dernière, il y a donc la LIBBES, qui est la plateforme pour l'étude de la biodiversité, qui avait fait un rapport, hein, 100 experts de 45 pays, qui disait qu'il y avait seulement 25% de la Terre aujourd'hui qui avait échappé aux conséquences des activités humaines. Or, s'il n'y a plus de sol cultivable, ça va poser des problèmes de sécurité alimentaire, de migration. Il y a déjà 3 milliards, selon ce rapport, 3 milliards de personnes qui seraient concernées par la dégradation des sols.
Oui, ce sont des chiffres absolument énormes. Donc c'est très préoccupant puisqu'on va quand même vers une augmentation de la population mondiale. Donc on a besoin globalement d'augmenter la production d'aliments à l'échelle de la planète. Bien sûr, il faut jouer sur le gâchis alimentaire, le gaspillage alimentaire, ce qui permettrait de récupérer un peu, mais ça ne suffit pas. Donc il va falloir au moins maintenir, si ce n'est augmenter, la production agricole, et c'est incompatible avec la dégradation actuelle des sols. Et le rapport de l'IPBES, donc l'IPBES c'est l'équivalent du GIEC, donc ce panel d'experts, qui a confirmé qu'il y a une érosion de la biodiversité qui est absolument terrible, au-dessus, celle qu'on voit, hein, celle qui est au-dessus des sols, mais également dans les sols.
Il y a beaucoup d'avions qui volent.
Oui, il y a beaucoup d'avions. Je pense que c'est les vacances, c'est peut-être que du coup, c'est un aéroport de plaisance.
Oui, ça vole beaucoup. Laure, vous qui êtes une spécialiste de la biodiversité des sols, ça vous inquiète, cette perte de biodiversité des sols de la planète ?
Ben, ça peut être inquiétant dans le sens où les organismes du sol assurent de très nombreuses fonctions dans les sols. Alors pour les sols agricoles, c'est la minéralisation de la matière organique, c'est la structure des sols, c'est la dégradation des polluants, c'est un rôle dans la qualité de l'eau. Donc on a besoin de tous ces organismes pour avoir des sols de qualité.
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui permettent de maintenir ces organismes durablement dans le sol. On va en parler, on va peut-être sortir du champ et aller se rasseoir un peu sur l'herbe. C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à Versailles, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Paris, pour prendre un cours de sol aujourd'hui avec trois scientifiques. Claire Chenu, enseignante en sciences du sol à AgroParisTech. Laure Vieux-Blégonneau, qui est maître de conférence à AgroParisTech et microbiologiste. Et Juliette Chassin, qui est stagiaire à l'INRA, étudiante à AgroParisTech et qui travaille sur les pratiques agricoles en lien avec la biodiversité. Alors justement, Claire Chenu, on a expliqué là en allant dans les champs, en comparant l'agriculture dite conventionnelle, hein, parce que finalement on ne sait pas vraiment qui a passé une convention avec qui, mais enfin on va dire l'agriculture industrielle. On a comparé un champ avec de l'agriculture industrielle avec un champ que vous appelez vous techniquement de conservation, c'est-à-dire qui n'est pas labouré et qui n'a quasiment pas d'intrants. Et on a vu qu'il y avait une grosse différence entre les sols. Un sol mieux conservé du côté de l'agriculture de conservation plutôt que du côté de l'agriculture industrielle. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions en fait qu'on peut mettre en place pour préserver les sols. Ça réside quoi? Vraiment dans les méthodes agricoles, c'est ça la clé?
Alors oui, je dirais dans les méthodes agricoles, alors je dirais qu'il y a un certain nombre de principes, mais il y a plein de manières de faire et plein de pratiques agricoles qui permettent de préserver les sols. Dans les principes, il y a apporter moins de biocides, moins de pesticides, réduire les doses de pesticides. Il y a éviter de diminuer la perturbation mécanique du sol, pas forcément la supprimer, mais essayer de la diminuer ou de la faire de manière raisonnée.
C'est-à-dire ne pas trop labourer.
Ne pas trop labourer, ne pas trop émietter le sol quand on prépare un lit de semences, ne pas laisser le sol nu exposés à la pluie. Hein, on a vu voilà, quel était l'effet quand on mettait de l'eau sur les agrégats du sol. Éviter de tasser le sol en entrant avec des engins lorsqu'il est humide. Et puis préserver la teneur en matière organique du sol, donc restituer de la biomasse au sol ou restituer des déchets organiques au sol de façon à maintenir, à enrichir les sols en matière organique. Mais ça, on peut le faire de plein de manières différentes. Par exemple, enrichir les sols en matière organique, on peut le faire en ayant des cultures intermédiaires, on peut le faire donc des cultures entre deux cultures de rente. On va avoir une plante qui va être là pendant l'hiver, qui va couvrir le sol et qui va restituer ensuite ses résidus à sa mort. Sa biomasse va être restituée au sol. On peut le faire en apportant des déchets organiques au sol, on peut le faire par l'agroforesterie, parce que les feuilles des arbres, les racines mortes des arbres vont être restituées au sol.
Alors, vous rappelez ce que c'est que l'agroforesterie ?
Oui, bien sûr. L'agroforesterie, c'est quand on a à la fois sur une même parcelle, un même champ, des arbres et des cultures. Alors ça existe dans toutes les régions du monde, hein. Ce sont les forêts-jardins, des forêts-jardins en Afrique, des parcs à Federbia. Ce sont ici en France ce qui se développe maintenant. C'est une agroforesterie qui est compatible avec la mécanisation. On a par exemple des bandes de céréales, de légumes, de diverses cultures, de vignes et puis des rangées d'arbres. Voilà, et donc on a à la fois sur une même parcelle et des arbres et une production agricole. Également, ça peut se faire sous prairies. En Espagne, il y a des très grandes zones avec des prairies pâturées avec des arbres régulièrement.
Alors, Vioblé Gonneau, vous qui êtes spécialiste de la microbiologie des sols, donc, comme le disait Claire, on peut rajouter aussi des déchets organiques sur les sols. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut faire des liens entre ville et campagne.
Oui, tout à fait. Ça permet de valoriser des déchets organiques. Alors, on peut trouver différents types de déchets organiques, hein, des bouts de stations d'épuration, par exemple, même si ça peut faire polémique. En tout cas, c'est une source de matière organique. On peut également avoir différents types de composts, des composts de déchets verts, des composts de biodéchets, des composts d'ordures ménagères résiduelles. Donc, tous ces composts qui peuvent avoir des propriétés différentes et donc avoir un impact sur la quantité et la qualité de la matière organique dans les sols et donc stimuler par exemple l'activité biologique à plus ou moins long terme.
Alors comment on fait ? Par exemple, on récupère les déchets ménagers organiques d'un quartier ou à l'échelle d'une ville et on les met directement sur le sol. Non, il y a un petit temps où il faut les laisser se dégrader.
Alors si on parle de compost, l'idée ça va être de collecter les déchets et notamment donc d'un point de vue réglementaire, hein, maintenant on va être obligé de collecter les biodéchets par exemple. Il peut y avoir différentes manières de les composter, il y a du compost en bas d'immeuble, il y a du compost à l'échelle de quartier. Voilà, l'idée c'est de transformer, de stabiliser la matière organique avant de la porter sur les sols.
Et donc ensuite, ça permet de développer de l'agriculture périurbaine, ce qui permet de faire des circuits courts et donc de consommer des fruits et des légumes cultivés au plus près de là où on habite. Et là, c'est bon pour le climat aussi parce que ça évite les transports.
Tout à fait. Alors ça ne va pas tout solutionner, hein. On ne pourra pas nourrir toute la population urbaine, mais en tout cas, la population urbaine a besoin de nature en ville, a besoin de circuits courts, d'économie circulaire. Donc ça permet à la fois de valoriser les déchets qui sont produits localement et de produire également localement.
Claire Chenu, ça fait partie des pistes. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Ce que je voudrais dire en tout cas, c'est que tous les principes dont j'ai parlé et toutes les pratiques et les systèmes agricoles qui peuvent répondre, pour moi, relèvent de l'agroécologie. Une agriculture qui mobilise plus les processus écologiques, les processus naturels dans l'écosystème. Mais il n'y a pas une pratique qui est la bonne et que tout le monde devrait suivre. Hein, les solutions ne sont pas du tout les mêmes dans les différentes régions du monde, ne sont pas les mêmes dans même sur les sur différents selon la qualité du sol. Hein, selon les sols sont très contrastés, sont très différents, ne sont pas les mêmes pour toutes les cultures et puis ne sont pas les mêmes pour tous les agriculteurs. Hein, y a des choix pour des raisons économiques, pour des raisons de conviction qu'on peut faire. Mais voilà, il y a un certain nombre de principes et il y a de multiples manières d'y arriver. Là, il n'y a pas de solution unique. Ça, je pense que c'est vraiment très important.
Donc enrichir le sol, le labourer le moins possible.
possible. Et puis pratiquer l'agroécologie, c'est un peu complexe parfois parce qu'il s'agit de mettre sur une même parcelle différentes variétés qui s'apportent des services les unes aux autres.
Alors c'est, merci, vous me faites penser à un autre levier. Effectivement, il y a un levier important en agroécologie qui est de diversifier les rotations, hein, de diversifier les cultures que l'on fait. Donc ça c'est sur à l'échelle d'une parcelle, mais aussi à l'échelle du paysage. Et Juliette a étudié ça lors de son stage. Par exemple, en introduisant par des aménagements dans le paysage, ne serait-ce qu'introduire des bandes fleuries entre les parcelles qui vont être un réservoir de biodiversité et permettre de contrôler certains ravageurs parce qu'il y a des prédateurs ou des parasites de ces ravageurs qui habitent dans les bandes fleuries.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de réseaux qui s'organisent à l'échelle mondiale pour porter la voix des sols ?
Oui, j'assiste à l'émergence d'un certain nombre de mouvements à l'échelle européenne, à l'échelle nationale. Il y a un mouvement qui s'appelle Healthy Soils, donc les sols en bonne santé aux États-Unis, qui rassemble de plus en plus d'agriculteurs. Il y a en Afrique un réseau qui s'appelle le réseau CASA, qui s'intéresse aux matières organiques dans les sols et au stockage de carbone dans les sols agricoles. Voilà, il y a un certain nombre de mouvements. En France, il y a un mouvement qui s'appelle l'agriculture du vivant, qui a été lancé cette année, qui rassemble, alors ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ça rassemble à la fois des agriculteurs qui pratiquent des formes d'agriculture différentes, agroforesterie, agriculture de conservation, agriculture raisonnée, agriculture biologique, voilà, mais avec pour objectif encore de maintenir et d'améliorer les propriétés des sols, ce que nous appelons parfois la qualité des sols.
Donc les mentalités changent.
Je trouve que les mentalités changent. Je voudrais qu'elles changent encore plus vite. Et pour ça, c'est vrai qu'il est important d'augmenter la sensibilisation au sol, de parler des sols et de faire comprendre, peut-être parce qu'on ne les voit pas, mais les sols sont vraiment, vraiment, vraiment méconnus. On ne se rend pas compte à quel point nous dépendons des sols et nos sociétés dépendent des sols depuis des millénaires, mais encore aujourd'hui, nous dépendons vraiment beaucoup des sols.
Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir consacré du temps dans ce champ et bonne poursuite donc dans vos recherches.
Merci.
Il restera de nous ici-bas, tout ce que les vers de terre ne mangent pas. Il ne restera sur terre de nous un peu de rien pour faire un peu de tout.
Merci à Claire Chenu, Laure Vieux-Blégonneau et Juliette Chassin pour leur accueil, à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, bien sûr, pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver notre reportage en vidéo sur les réseaux sociaux, #CPDV, et sur la page de l'émission www.rfi.fr. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.